Je suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain.
Nom de Zeus!
Le coup de foudre, c'est ça.
De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune.
À vos casques prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Comme chaque premier samedi du mois, notre mission du jour est claire, vous faire découvrir une personnalité intéressante, quel que soit son style de vie, son métier ou son âge. Arraché à nos routines, la plus belle des raisons de vivre, celle de faire ce qu'on aime, d'aimer ce qu'on fait, de se rappeler encore et encore qu'on respire, qu'on est là, qu'il y a une place pour nous quelque part et que nous voulons la trouver. Je l'ai de temps en temps cette révélation, je l'ai en me réveillant contre celle que j'aime, en découvrant qu'une fois encore le soleil s'est levé. Je l'ai en buvant un thé le matin, en regardant la grand-mère de la maison d'en face faire son jardin. Je l'ai en regardant le poissonnier conseiller ses clients avec un enthousiasme incroyable, les yeux brillants. C'est vrai, lorsque j'étais très bas dans ma vie, j'ai craché sur ceux qui étalent leur bonheur à tout va, j'ai dit « à quoi bon ?» J'ai méprisé le rire. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'avais tort, mais je n'avais certainement pas raison. Car la foudre est là, elle frappe sans cesse, elle réunit les êtres dans ses décharges et les fait crépiter de vie. Je pense qu'elle frappera toujours, et tant mieux. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. D'abord notre chroniqueur Globetrotter, salut Brian.
Bonjour tout le monde.
Cette fois, tu vas nous emmener dans un pays mystère, si j'ai bien compris.
C'est ça, exactement. L'objectif sera de trouver de quel pays il s'agit.
Une devinette, c'est nouveau. Ça me plaît. Et celle qui vous fait découvrir des polars de toutes les époques. Salut Roma.
Salut, salut.
On va partir dans la lande avec l'un des détectives les plus célèbres au monde.
Tout à fait.
Super, ben on a hâte. Et quant à la réalisation, elle sera aujourd'hui assurée par Pauline qui est gentiment venue nous assister malgré un emploi du temps chargé. Salut Pauline. Et aujourd'hui donc dans Coup de foudre, nous recevons Adèle Ancior. Bonjour Adèle, c'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. Pour te présenter en quelques mots aux auditeurs, donc tu as eu assez tôt dans ta vie des envies artistiques. Tu m'as dit que tu aimais beaucoup dessiner en primaire. Tu étais notamment influencée par les comics de ton père. Tu aimais beaucoup l'art plastique. Tu te voyais devenir dessinatrice. Finalement, tu as fait les Beaux-Arts du Mans pour en partir au bout de 3 ans. Tu m'as dit plus ou moins de ton plein gré. Tu es finalement arrivée à la photo via la filière d'art appliqué à la MJM de Rennes. Sauf que tu avais un petit peu la trouille du salariat, donc tu as été un petit peu précaire pendant 3 ans. Et tu as donc choisi de devenir freelance et de jongler sur diverses activités, photographie d'art et photographie alimentaire, entre guillemets, dessin, écriture et même broderie.
C'est tout à fait ça.
Super, bah on va en dire plus dans l'interview. Mais avant d'entamer les facéties radiophoniques, je te propose un ping-pong supersonique, le quiz éclair. Les règles sont simples, je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. T'es prête ?
Vas-y.
Super. Vitesse ou lenteur ?
Lenteur.
Sucré ou salé ?
Salé.
Pastel ou fusain ?
Fusain.
Vote ou abstention ?
Abstention.
Ville ou campagne ?
Moitié, moitié.
Ok. Argentique ou numérique ?
Numérique.
Thé ou café ?
Bière.
Penser ou vivre ?
Les deux.
Ouais, elle est dure celle-là. Chat ou chien ?
Ni l'un ni l'autre.
D'accord. Poésie ou prose ?
Prose.
Organisé ou bordélique ?
Organisé.
Passé ou futur ?
Futur.
Et on enchaîne tout de suite avec l'interview. Je le disais en introduction d'abord, tu t'intéresses très tôt au dessin dans ta vie, au point de t'imaginer dessinatrice une fois adulte. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Qu'est-ce qui au départ te plaît dans le fait de représenter le monde ?
Bah, quand t'es petit, la première façon de faire des images, ça passe par le dessin. Du coup, tu commences, dès que tu commences à tenir un crayon... t'arrives vite au dessin. Du coup, ça a été ça pendant longtemps. J'ai voulu faire de la bande dessinée pendant un moment, quand j'étais ado. Et finalement, j'ai fait rien de tout ça.
D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est très naturel pour toi, ça vient
c'est
très
tôt dans ta vie. C'est pas tant représenter le monde, en plus, c'est vraiment raconter des histoires.
D'accord.
Une façon de raconter un médium pour raconter des histoires, quoi. Et ça a commencé par le dessin.
D'accord. Donc, l'envie première, c'est simplement ça, raconter des histoires. Ça aurait pu être les mots, ça aurait pu être autre chose, ça a été le dessin. D'accord, je comprends. Et est-ce que tu développes un style, entre guillemets, rapidement? Est-ce que tu t'orientes plus vers, je sais pas, le figuratif, l'abstrait? Est-ce que tu as des sujets de prédilection?
J'ai pas de sujet de prédilection. Après, quand j'étais petite, je copiais beaucoup. J'ai commencé comme ça, tu sais, je copiais les bandes dessinées que je lisais, je refaisais exactement les mêmes dessins, etc. Donc, je suis passée un peu par plein de styles. Et c'est assez formateur pour apprendre à dessiner. Et non, après, ça reste très, très figuratif. Même mes dessins aujourd'hui, c'est un peu... pas tout à fait réaliste, c'est assez brouillon, mais ça reste très... assez réaliste quand même.
D'accord. Ouais, tu me parlais des Picsou, par exemple. On s'était rejoint là-dessus sur les Picsou, le fait
ma passion d'enfant.
Okay. Donc, tu dessinais peut-être, je sais pas, des petits Donald.
Ouais, j'ai eu cette période où je faisais plein des petits Donald, des petits Mickey, enfin, plein de tous les petits persos. Ouais.
C'était tes premiers pas dans le dessin.
C'est ça.
D'accord. Et, d'ailleurs, bon, petite parenthèse, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas envie de parler de Picsou 15 ans, mais on avait parlé d'Androssa, qui est un dessinateur de Picsou. Si vous lisez pas les Picsou, moi, je vous recommande fortement ceux dessinés par d'Androssa, parce qu'il y a un souci du détail, il y a un truc incroyable dans les décors, même les architectures et même les histoires. Ils s'inspirent de vrais trucs historiques. Et donc, les personnages partent... je sais pas, dans par exemple les Espagnols avec Cortés, les conquistadors, etc. Il y a plein d'histoires incroyables, quoi. Donc, moralité, lisez Picsou. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu bifurques vers la filière d'art appliqué à Rennes, en fait, pour étudier la photo, donc plus en profondeur?
C'est un peu du hasard, tout ça. Au début, pendant très longtemps, je faisais du dessin. J'ai voulu faire du dessin. J'ai voulu faire une école de bande dessinée qui était trop chère, tout simplement. Du coup, j'ai fait, par défaut, je suis passée par les Beaux-Arts plutôt que par cette école. Du coup, aux Beaux-Arts, j'ai découvert autre chose. Et puis voilà. Et puis en sortant des Beaux-Arts, je cherchais une filière qui soit un minimum... professionnalisant, enfin de quoi faire un métier qui puisse être un minimum rémunérateur pour continuer moi à faire mon travail à côté de photos, de dessins, etc. Et voilà, je me suis tournée vers la photo. Donc j'ai fait une formation plutôt technique à Rennes. Et voilà.
D'accord. Et parlons justement un peu de tes projets perso en photo. Moi, je suis ton travail depuis quelques années maintenant. On sent quand même certaines obsessions chez toi. Comme chez pas mal d'artistes d'ailleurs. Oui, je sais que tu t'en défends, mais oui, moi, je les sens un petit peu. Par exemple, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport au corps, pour commencer?
Mon rapport au corps? C'est-à-dire, c'est un peu vague comme question, mon rapport au corps.
Dans la photo, spécifiquement.
Dans la photo.
Oui.
Je pense que mon rapport au corps ou ma façon de montrer le corps en photo, c'est pas mal lié justement à la façon dont j'ai dessiné le corps pendant longtemps. Parce qu'en dessin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de réalisme et après j'avais tendance à, une fois qu'on maîtrise plutôt bien les proportions, etc., à commencer à déformer beaucoup... et le corps, puisque je faisais énormément de dessins de corps, de visage, etc. Et donc en photo, j'ai travaillé un peu de la même façon.
D'accord. Donc tu as progressivement déstructuré un peu.
C'est ça, c'est vraiment dans l'idée de déstructurer, de ne pas être dans une représentation. La photo, tu vois, on pourrait se dire, tu as plein de gens qui ont cette petite phrase, la photo c'est une photocopie du réel, c'est je sais pas quoi, un truc. Et c'est pas du tout ce qui m'intéresse en photo, de prendre quelque chose là qui existe, qui est là, et de le photographier d'une certaine façon et tout. C'est plus de faire quelque chose avec le médium qui est la photographie. Et voilà, j'ai perdu le fil.
Non, mais en plus c'est parfait, parce que ça rebondit sur ma question suivante. Moi, je suis allé me promener un petit peu sur ton site, évidemment, en préparant l'émission, pour un peu m'imprégner de ton travail. Et un aspect, justement, qui m'a frappé, c'est la géométrie. Ça, on n'en avait pas parlé ensemble. On le ressent par exemple dans La Ligne Noire, où Alphabet Urbain, c'est des noirs et blancs structurés par des lignes, des poteaux, des parapets, des choses comme ça. Je me demandais, est-ce que pour toi le monde est géométrique ou est-ce que tu voudrais bien qu'il le soit ?
Je le vois déjà, comme ça. Mm-hmm. Et dans ces photos-là, justement, ce qui est rigolo, tu vois, quand tu me parles de certaines séries, il y en a une, je ne sais pas si c'est à celle-ci que tu pensais, mais à l'Alphabet Urbain, qui n'est pas très très vieille. Et c'était rigolo celle-ci parce que quand les modèles ont vu les photos, du coup, ils ne s'attendaient pas. Finalement, eux, ils ont posé dans un cadre précis. Moi, quand je les photographiais dans ce cadre, je voyais tout de suite les lignes, la composition, etc. Et eux, pas du tout. Et c'est vraiment, du coup, en voyant les photos. Les photos.
Tu t'en es rendu compte.
Voilà.
Que
eux m'ont dit c'est marrant parce que nous, en posant dans ce cadre-là, on n'avait pas vu le.
Ils ont vu ce que ton œil voyait.
On n'avait pas vu les choses comme ça, imaginer le cadre comme ça.
Et je comprends. Donc, c'est quand même toi qui vois une vraie géométrie urbaine qui nous entoure. Quoi.
Bah, ça doit être ça, alors.
Okay. Et d'ailleurs, il y a aussi ta série sur les cimetières qui est intéressante. Tu aimes t'y promener, photographier les pierres, les couronnes, les croix. Ça, c'est pourquoi ? Parce que déjà, il y a un aspect géométrique aussi, du coup, avec les pierres, etc. C'est quand même très beaucoup de lignes. Mais qu'est-ce que tu interroges là-dedans ? La mort, la religion, autre chose peut-être ?
Je sais pas trop, je sais que la religion, j'y connais pour ainsi dire pas grand-chose, mais j'aime bien l'iconographie en général depuis très très jeune. Et les cimetières, c'est une série que j'ai commencée en 2011, je crois. Et c'est vraiment me balader dans tous les cimetières que je croise dans n'importe quel pays. Donc pour l'instant, c'est vraiment de la documentation, dans le but d'en faire éventuellement un livre après.
D'accord.
Mais j'ai tellement de photos et d'endroits que je ne sais pas encore comment je vais organiser ça.
Mmh. Mais donc, il n'y a pas quelque chose derrière, je veux dire, artistiquement, quand je te disais ce que tu interroges la mort, la religion, il n'y a pas de concept pour toi. C'est simplement t'y promener, tu aimes bien ces lieux, tu aimes bien ce que tu y vois.
Ouais, c'est des sujets qui m'intéressent, qui me touchent, qui me parlent. Mais il n'y a pas de fond précis, il n'y a pas de projet concret, il n'y a pas de but concret, d'idée de base établie.
Je comprends. Ça marche. Alors on va se faire une petite pause musicale. Tu nous as choisi un morceau d'un groupe qui s'appelle Catherine Baseball. La chanson s'appelle Hungry for Nothing. Pourquoi ? C'est un groupe que tu aimes bien, que tu apprécies ?
Ouais, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps.
D'accord.
Et voilà, c'est des Rennais. Ils sont fort sympathiques. Ils font des choses fort chouettes. Et ils ont sorti un album il n'y a pas très longtemps. Du coup, voilà.
Ok, super. On écoute ça tout de suite. Thank you. Vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Il est 13h21 et on reçoit l'artiste Adèle Ancior qui nous vient de Rennes pour nous parler de son travail artistique. Alors Adèle, on a parlé de l'aspect photographique.
De
Picsou. De Picsou aussi, effectivement. Et là, on va embrayer sur le dessin, l'aspect de dessin de ce que tu fais. Donc, moi, j'ai vu passer, par exemple, pas mal de dessins en ce moment où tu peins des portraits de personnalités, comme donc Patti Smith, j'ai vu Joaquin Phoenix aussi qui est passé, Charles Bukowski. Qu'est-ce que tu cherches dans ces visages ?
Qu'est-ce que je cherche dans ces visages ?
Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Pourquoi ce plaisir ?
Qu'est-ce que j'y trouve ? Bah, déjà, je peins mes idoles, entre guillemets. Et puis, qu'est-ce que j'y vois ? Elle est étrange, ta question.
Je ne sais pas, parce qu'on sent quand même que si c'est une série aussi longue, c'est qu'il y a quelque chose qui te...
Bah, c'est
qui
des séries qui peuvent être infinies, ça. Des gens que tu dessinais avec pour seule base de se dire je dessine des gens que j'admire, que j'apprécie et autres.
Tout simplement.
Ouais, tout simplement.
D'accord, très bien. Alors attends que je me retrouve dans mes questions. Un autre aspect de ton travail dans le dessin, c'est ce qu'on peut retrouver dans la série Intimité, par exemple. Un style assez épuré, un crayonné rouge, lumière blanche et des corps qui s'enlacent, s'embrassent, se lèchent ou se pénètrent. La sensualité et l'érotisme, est-ce que c'est une part importante de ton art ?
Ouais, je pense. Et c'est plus facile à exprimer en dessin qu'en photo.
Mmh. Pourquoi ça ?
Bah, tout simplement parce qu'en photo, vu qu'on part d'un modèle, il faut des modèles consentants.
Oui.
Non, du coup, en dessin, t'es très libre. Tu n'as pas de règles, t'as pas de limites, t'es maître de tout, quoi.
Mm-hmm.
Donc, c'est assez différent.
Et tu penses qu'en photo, oui, par exemple, tu te sens très limité ?
T'es toujours un peu limité en photo.
Parce que, par exemple, on parlait de ton œil qui voit une géographie, une géométrie plutôt dans le monde.
Ouais, là, on parle du cadre. Quand je fais des photos en extérieur, où du coup, les modèles s'inscrivent forcément dans un cadre que toi, tu vois avec ton œil, mais que celui qui pose ne voit pas forcément comme toi. Mais quand tu fais de la photo en studio, déjà, tu n'as pas de cadre. Tu as du vide, en fait. Ton cadre, c'est du blanc. Et ensuite, du coup, tu es très dépendant de tes modèles. Donc, toi, tu veux que les modèles posent comme ci, dégagent cela, soit... après, voilà, ça, c'est pas toi qui décide de tout. Il faut que les gens soient à l'aise, il faut qu'ils soient, opérationnels, volontaires pour n'importe quel type de pose. Il faut qu'ils dégagent quelque chose aussi physiquement. Il faut, tu vois, t'es complètement dépendant du modèle quand tu travailles avec quelqu'un en photo.
Oui, bien sûr, oui. Ça me fait penser à la phrase de Vincent Cassel que j'aime bien, on est toujours prisonnier de sa gueule. C'est un peu ça, quoi. C'est...
Ouais.
Y a deux autres domaines artistiques, d'ailleurs, que tu aimes pratiquer. Y a l'écriture. Donc,
ouais.
J'ai vu ta série L'économie poétique, par exemple. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? J'ai trouvé ça intéressant et en même temps, j'ai pas... comment dire, tu utilises l'écriture, mais comme tu peux le faire d'ailleurs dans la photo, tu déstructures justement, puisqu'on a simplement des mouvements de main, des lignes, des choses qui s'entrecroisent comme ça et qui forment comme des phrases ou comme des mots, mais c'est pas des phrases et c'est pas des mots.
C'est... En fait, l'économie poétique, ouais, c'est un peu un croisement sur le rendu entre l'écriture et le dessin.
D'accord.
Alors que vraiment sur le principe est simple, en fait, c'est que j'écris depuis très longtemps. Et je ne partage pas depuis très longtemps ce que j'écris. Et quand j'ai commencé à avoir pas mal de poèmes, etc., j'ai commencé à me dire, tiens, je vais les montrer, mais je vais les montrer d'une autre façon pour pas que ce soit finalement si accessible. Et du coup, j'écrivais à la main et j'écrivais le second par-dessus, etc., etc.
D'accord.
Donc, en fait, ça donne un truc... Exactement, j'empilais. Donc ça donne un truc plutôt illisible. On comprend que c'est écrit.
Oui.
Mais voilà, comme c'est pas lisible, le rendu fait que ouais, on est vraiment à cheval entre l'écriture et le dessin.
Ça me fait penser
sur ce
à
qui en ressort visuellement.
Est-ce que tu connais le damas, la technique du damas dans les couteaux ?
Pas du tout.
C'est une technique où en fait ils empilent des couches de métaux ça donne un tracé, un dessin sur la lame. Et c'est un peu ça en fait. Tu fais du damas avec les mots.
On peut dire ça. Pourquoi pas.
Et aussi la broderie. Tu m'as parlé de la broderie. C'est encore un autre domaine créatif pour toi ? Une autre façon de t'exprimer ?
Non, pour moi, la broderie, c'est vraiment c'est lié au dessin. C'est juste que le dessin, au lieu de le faire avec un crayon, je le fais avec du fil et une aiguille, quoi, pas sur un papier, mais sur un tissu.
Mmh. Tu m'as dit que tu étais quelqu'un d'assez méticuleux, donc c'est peut-être aussi pour ça. C'est quelque chose d'assez méticuleux comme activité, la broderie ?
C'est très long, ouais, c'est très long, c'est très précis. Du coup, ça va un peu à l'encontre de ma façon habituelle de dessiner, parce que moi, je suis assez brouillon. J'ai un dessin qui est assez rapide, assez vif, assez brouillon, et la broderie ne te permet pas ça du tout. Mmh. Parce que tu fais du point par point, c'est très précis, c'est très très long. Mais ce qui est rigolo avec la broderie, c'est maintenant, après, c'est assez utilisé aujourd'hui par plein d'artistes, mais traditionnellement, c'est quand même un truc un peu désuet, tu vois, où on pense la broderie, les petites fleurs sur les oreillers. Je trouvais ça rigolo il y a une dizaine d'années quand j'avais commencé à utiliser la broderie. J'aimais bien le côté un peu désuet qu'avait le médium en soi et puis le truc rigolo de faire des nus ou des dessins porno, etc. Avec
la broderie. Un média normalement qui est un peu considéré comme vieux, quoi.
Qui a vraiment ce côté.
Oui, je comprends, réinventer
un
ça.
Un peu ringard, quoi.
Mmh. En préparant cette interview, tu m'as dit des phrases comme « créer, c'est ne pas faire de concessions ». J'aime pas la pub ni les vernissages et je ne crée pas pour montrer. Est-ce que tu serais pas un peu réac, Adèle ?
Bah, je sais pas. Pourquoi ?
Parce que c'est des phrases quand même qui se font justement. Il n'y a pas de concession, quoi. C'est quelque chose où tu.
Ouais, mais je pense que de toute façon, quand tu crées, tu le fais toujours pour toi, de base. Tu le fais pas dans le but de tiens, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on voudrait voir ? On attend ça, je vais le faire. On voudrait voir ça, je vais le faire. On veut me voir là, je vais y aller. On veut que je dise ça, je vais le dire. On veut ça. Je
pense pas qu'il y a pas mal d'artistes qui fonctionnent comme ça quand même.
Si, sûrement, mais beaucoup, je sais pas.
Je m'as dit beaucoup, j'ai dit pas mal.
Ouais, si, bien sûr, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais.
Mais c'est pas ta vision des choses.
Bah, ça me semble pas cohérent.
Et donc, par exemple, le besoin de se vendre, le besoin de se montrer justement pour se vendre, le besoin de faire
alors
de
ça,
la com.
Alors ça, je peux comprendre quand tu dois en vivre.
Oui.
Et moi, du coup, j'ai choisi de faire un autre travail alimentaire à côté. Du coup, ça me donne l'entière liberté de faire ce que je veux, quand je veux, de montrer, de pas montrer, de défendre, de pas défendre, etc. Mmh. Et de pas être trop...
soumise à ces obligations.
Voilà, soumise à ces questions-là financières...
D'accord, bah oui, c'est une chance d'avoir cette liberté-là.
Ouais.
Et l'incontournable dernière question, on l'a compris, tu fourmilles de projets. Est-ce que tu as des expos de prévus, des publications dans le futur ? Où est-ce que tu vas ?
Non, alors là, c'est fini pour 2021. J'hésite, mm-hmm. Ouais, 2021. Par contre, non, là, je vends pas mal de dessins, de tirages en ce moment, là, pour la fin d'année. Donc, c'est que des tirages limités.
Oui, où est-ce qu'on peut trouver ton travail sur le net ?
On peut trouver, c'est sur. Ça passe par la plateforme Big Cartel, qui est une plateforme de vente en ligne.
D'accord.
Et on trouve facilement les liens sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux.
D'accord, ton site internet donc, qui est ?
Adèle Ancior.com.
Bon, bah rendez-vous sur adèleancior.com pour voir tous ces travaux, donc photographiques, les dessins, l'écriture, etc. Merci Adèle d'être venue nous rendre visite aujourd'hui.
Merci.
Merci à toi. Et puis, on va enchaîner avec un artiste que j'apprécie bien. C'est un, j'allais dire un ami, mais non, c'est une connaissance voilà, que j'ai croisé dans une soirée il n'y a pas longtemps. Son nom d'artiste, c'est Anax. Il a des textes assez engagés, notamment sur la servitude volontaire, si vous êtes familier de ce concept. On s'écoute tout de suite, donc Anax, servitude volontaire.
J'ai cherché tant d'années à me livrer à toi. Tu te caches, tu t'effaces, dans le verbe tu te noies. Tu deviens un fantasme, une idée, un combat. Mais ton ivresse et ta violence ne sont pas faites pour moi. Ton ivresse, ta violence ne sont pas faites pour moi. Je ne suis pas fait pour la liberté. Je garde les épaules bien basses. Oui, j'aime les coups de cravache. Je ne suis pas taillé pour la liberté. Quand mes poignets se libèrent, mon esprit lui reste serre. Je ne suis pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, non pas taillé, pas fait, non pas taillé, pas fait, non pas taillé, pour la liberté. J'ai connu la Boétie, Huxley, Nietzsche et Bourdieu. S'il n'est plus l'heure de mentir, je suis d'accord avec eux. Où est-elle ma campagne, mon amour, mon amère? Je suis fléchi par la norme, servitude volontaire. Trahi par la norme, amnésie suicidaire. Je ne suis pas fait pour la liberté. Je garde les épaules bien basses. Oui, j'aime les coups de cravache. Je ne suis pas taillé pour la liberté. Quand mes poignets se libèrent, mon esprit lui reste serre. Je ne suis pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, non pas taillé, pas fait, non pas taillé, pas fait, non pas taillé, pour la liberté. Comme je vous envie, mon cousin, mon Pierrot, d'avoir su endosser le costume des marginaux. Vous qui parcourez les routes, oui, qui voltez dans le vent. Il y a du sanguin dans vos vies, de la vie dans votre sang. Je ne suis pas fait pour la liberté. Je garde les épaules bien basses. Oui, j'aime les coups de cravache. Je ne suis pas taillé pour la liberté. Quand mes poignets se libèrent, mon esprit lui reste serre. Je ne suis pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, pas taillé, pas fait, non pas taillé, pas fait, non pas taillé, pas fait, non pas taillé, pour la liberté. Et je mourrai la tête baissée, heureux d'avoir participé.
Il est 13h33, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre. Et c'est l'heure de la première chronique, celle de Brian.
S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection ?
Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde dans un pays très connu des backpackers. À vous de deviner de quel pays il s'agit. Champion du monde du bonheur durable, rien que ça. Depuis plusieurs années, il maintient sa position en tête du classement de l'Happy Planet Index par sa capacité à offrir des longues, heureuses et agréables vies à ses citoyens. C'est un pays défini par sa douceur de vivre, ses richesses environnementales incroyables et la gentillesse de ses habitants surnommés Ticos. Son objectif principal est la protection de l'environnement, le respect du vivant et le bien-être de la population. Côté environnement, le pays peut se vanter de représenter 6% de la biodiversité sur Terre, alors qu'il n'en représente que 0,4% en termes de superficie. Très diversifié, on peut y trouver des volcans, des plages, des forêts. Un quart de son territoire est classé en parcs nationaux ou réserves naturelles avec l'ambition de protéger des espaces toujours plus grands. Des choix politiques courageux et rares. Derrière ce décor se cache un pays où la vie est plutôt douce, où le tourisme n'a jamais le sentiment de s'appuyer sur la misère des habitants pour profiter de leurs ressources. Un pays sain, une vraie démocratie, une économie dynamique où les biens sont partagés. Éducation, santé, développement durable, droits civiques. Dans bien des domaines, il est en avance sur son temps. Le pays a renoncé à son armée en 1948 et a ouvert son premier parc national au début des années 1970. C'est aujourd'hui le pays le plus égalitaire d'Amérique latine. C'est sans doute grâce à ce cadre de vie que la population a su conserver sa bienveillance. Parlons maintenant d'une ville. Puerto Viejo, ville située sur la côte Caraïbe, est un véritable havre de paix. On a l'impression d'être en Jamaïque. Puerto Viejo est un village ayant accueilli, il y a plusieurs décennies, des descendants jamaïcains fuyant la pauvreté et le gouvernement colonial anglais. On y croise donc chaque jour une partie de la culture de ce pays. Du reggae dans chaque bar, de la ganja à tous les coins de rue et des rastas aux allures paisibles et envoûtées par la force de la nature environnante. Dans les rues, les vélos sans LED croisent 4x4 et piétons, sans chaussures et sans marque, sans masque sous le regard des artisans qui se tiennent devant leurs pierres et leurs macramés. Chaque jour est ainsi une nouvelle définition de la pura vida. Il suffit de traverser le centre-ville calme et animé de Puerto Viejo pour entendre des pura vida a tu va. Tantôt il signifie tout va bien, tantôt il signifie merci, tantôt il signifie il n'y a pas de problème. Deux mots qui se suffisent à eux-mêmes pour saluer ceux que l'on croise sur notre chemin pour se transmettre amour et bienveillance. Bien plus qu'une formule de politesse ponctuant des phrases, les phrases des ticos, pura vida représente un mode de vie, une philosophie consistant à toujours se rappeler qu'il est bon d'être en vie. Vous l'aurez certainement bien deviné, bienvenue au Costa Rica. Merci de m'avoir écouté, cette chronique a été coécrite avec ma copine qui m'a partagé son retour de voyage. On se retrouve dans un mois pour la suite de notre tour du monde et d'ici là, pura vida.
Merci Brian, ça donne sacrément envie d'aller y mettre les pieds. Et tu nous as choisi une musique de Jaricio. Qui est cet artiste? Tu sais un petit peu ou...
C'est un artiste qui vient du Costa Rica et qui, je trouve, représentait bien ce pura vida. Donc du coup, on va être voilà, sur des notes un petit peu reggae, un petit peu dansantes. Donc voilà, au plaisir de vous faire découvrir.
Ça s'appelle Un León Non Se Rinde.
Yeah, 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 yeah. Gotta make them know it is Jaricio. Oh, 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 yeah. Oh, yo, Zaya.
Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. Yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. Yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. El que lo siente lo sabe, cruzando la montaña o el valle. Yalo, esa es la clave, él nos da la llave que cualquier puerta abre. Babilán trata de ponerme miserable, pero yo soy un soldado honorable. Soy un recluta de ya ame, así que nunca traten de pararme. Porque un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. Yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme.
Rastaman por siempre will burn up the fire. Voy como guerrero por media batalla. Siempre valiente y lleno de agalla. Rasta no se rinde, Rasta no tira la toalla. Podrán decir que yo soy un canalla. Yo reparto la buena vibra por donde vaya. No voy a parar hasta ganarme la medalla. Ya no se manda real warrior.
Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. Yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. Yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme.
Sólido como una roca,
yeah, yeah.
Como el hierro.
Tengo la bendición de Elise Lassie el primero. Por eso Babilán nunca engaña mi cerebro. Yo soy humilde y también soy sincero. No pueden tirar mi vida por el basurero. Yo soy tal como un guerrero. A eso me refiero cuando digo
un león no se rinde. Así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde. Así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme.
El que lo siente lo sabe, cruzando la montaña o el valle. Esa es la clave, él nos da la llave que cualquier puerta abre. Babilán trata de ponerme miserable, pero yo soy un soldado honorable. Soy un recluta de ya ame, así que nunca traten de pararme. Porque un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue. Yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Un león no se rinde, así como el fuego de ya no se extingue, yeah. Babilán no causará que yo me hinque. Rastafari me mantiene firme. Yeah, yeah.
light the fire, liar. Zion production. Rasta no se rinde.
Il est 13h41, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre et c'est l'heure de la rubrique Truc de fou.
Vous ne vous reposez jamais, vous.
Fait divers, de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou.
Alors, Truc de fou, le concept est assez simple, c'est qu'on... On discute de choses qui nous ont marqué récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois, des trucs qui nous ont fait plaisir, qui nous ont plu. Ça peut être plein de choses, des livres, des films, des restos, des voyages, voilà, plein de choses. Et aujourd'hui, moi, j'avais choisi de vous parler d'un projet qui m'a fait très, très plaisir récemment. Sur ma chaîne YouTube, donc Georges en poésie, j'ai organisé un concours de poèmes pour essayer de voir un petit peu à quoi ça ressemblait la poésie contemporaine en ce moment. Et j'ai eu pas mal de participants et je leur avais dit que le gagnant aurait son poème qui serait lu en direct à la radio aujourd'hui dans l'émission. Donc je vais le faire, hein, je respecte mes promesses en général. Le gagnant, c'est un texte qui s'appelle « L'île du roi » qui a été écrit par Philippe Giacomoni. Encore bravo Philippe et merci d'avoir participé au concours. Ce poème, juste je vous en donne rapidement une idée avant de le lire. C'est un poème qu'il a écrit, qui en fait est sur la geste arthurienne. Donc si ça vous parle, voilà, ceux qui connaissent Kaamelott, bah, vous verrez un petit peu. Là c'est dans un autre registre, dans un registre plutôt lyrique, plus sérieux entre guillemets que Kaamelott. Et vous entendrez régulièrement dans le texte parler des laies sur d'Avalon. Une laie, ça n'est pas dans ce cas enfin dans ce type de langage, ça n'est pas la femelle du sanglier, hein, ça veut dire un sentier, un chemin, voilà. Donc quand il parle des laies sur d'Avalon, ça veut dire des chemins, voilà. Donc le poème s'appelle « L'île du roi » par Philippe Giacomoni. Ô Dieu volage à jamais détourné, ô cœur rempli d'ambition, ô brasier du savoir animé, ô sire Pendragon. L'ours, le fer croisé, dans la mémoire d'Avalon, ses visages à jamais gravés, 12 chevaliers, loyales affections. De la lame sacrée, la clarté, des blessures, la guérison, Arthur, majesté, ô sire d'Avalon. Odieux présage, pour longtemps oublié, d'une fée, la déraison, à ce visage de larmes marqué, ô frère Pendragon. Aux yeux sauvages à jamais fermés, ô cœur libre d'ambition, aux feux sans âges allumés, ô lait sûr d'Avalon. Morgane, très figée, neuf sœurs, douces intentions, aux rivages longtemps oubliés, ô lait sûr d'Avalon. Roi si loin mené, la fée prodigue l'ablution, aux yeux noirs étiolés, ô île d'Avalon. Ô amant, frère épuisé, dame sans effusion, aux yeux noirs à jamais fermés, Morgane d'Avalon. Et j'ai beaucoup aimé ce texte parce que j'aime beaucoup la ritournelle, le côté cyclique entre les « et les « on ». Alors bon, ceux d'entre vous qui aiment la poésie, j'espère que ça vous a plu. Ceux qui n'aiment pas la poésie, bah peut-être que ce texte voilà, vous a permis de découvrir, de vous dire ah, « mais en fait, c'est pas si terrible que ça, la poésie ». En tout cas, j'espère, c'est un peu mon but sur ma chaîne YouTube aussi. Est-ce qu'autour de la table, il y en a une ou un d'entre vous qui aurait envie de partager une expérience récente, un truc, n'importe quoi, quelque chose qui vous a plu, comme ça, spontanément, ça sort du cœur?
Moi, j'ai quelque chose, peut-être. J'ai quelque chose. Ouais, effectivement, j'ai beaucoup apprécié une série que sans doute beaucoup ont vue sur la vie d'un artiste qui s'appelle Aurel San, très très connu. Et la série s'appelle Ne montre jamais ça à personne. Et je me suis vraiment retrouvé dans cette série en tant que personne. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune, je me suis vraiment retrouvé. La personnification, en fait, s'est fait assez naturellement. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup adoré. Je l'ai regardé déjà 3 fois.
C'est celle qui a été réalisée par son frère, c'est ça?
C'est Clément? Ça, exactement. Clément, okay. C'est ça.
Et en fait, c'est que des images d'archives de sa vie
C'est ça. En fait, on reprend depuis les débuts, dans son tout premier appartement, jusqu'à son Bercy à Paris. Et du coup, on voit toute l'évolution, les choix qu'il a fait dans sa carrière, qui n'ont jamais été logiques, mais qui l'ont mené à ce qu'il est aujourd'hui. Et je trouve que c'est très très bien réalisé et voilà, je voulais partager mon coup de cœur pour cette série.
Et la nouvelle chanson d'ailleurs, L'odeur de l'essence aussi.
C'est ça, le nouvel album même, Civilisation, oui. Qui est sorti le 24 ou le 25 novembre, que je conseille parce que je trouve qu'il y a des morceaux qui sont vraiment excellents, notamment Manifest et La Quête. Du coup, voilà, je vous conseille, si vous aimez l'artiste, d'écouter ce nouvel album.
Eh ben chouette, merci Brian. Oui, Roma.
Mais oui, moi je me demandais du coup en quoi est-ce que tu te reconnais dans le personnage. Enfin...
Eh ben en plus c'est plus dans la manière de vivre comment il concevait sa vie à être dans son appartement avec des potes à voilà et puis je me suis revu à une certaine période où on faisait plus ou moins les mêmes choses et okay. Du coup je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne beaucoup aussi dans ses textes, c'est que voilà, il a su exprimer et montrer la vie de beaucoup de personnes. Enfin, mm-hmm. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis, mais je trouve que voilà, on se reconnaît très facilement dans ses textes, à la différence d'autres rappeurs où ils ont des sujets plus divers et variés. Lui, il parle vraiment du quotidien, de la vie des gens, de sa propre vie, et du coup, c'est très très simple de se reconnaître là-dedans.
Ok, merci.
Peut-être moins polarisé que d'autres rappeurs qui sont plus...
C'est ça, il y a peut-être moins d'engagement dans les textes sur des valeurs politiques, sur des valeurs, je ne sais pas, financières ou X, mm-hmm. diverses et variées. Voilà, lui, j'ai l'impression juste qu'il raconte sa vie, qu'il aime raconter ça. Et du coup, j'adore.
Ouais, mais moi, je te disais, l'odeur de l'essence, c'est vrai que quand je l'ai écouté, c'est pas ce que j'écoute au quotidien. Et là, bah, j'ai quand même un petit peu pris une claque. Donc, j'étais étonné.
Moi-même. Et bah, je te conseille d'écouter tout l'album à ce moment-là.
Ça marche, je retiens.
Et moi, du coup, je suis tombée sur un épisode de Orelsan qui fait avec des amis sur YouTube une micro-série qui s'appelle Bloqué. Et je suis notamment tombée sur, alors probablement un peu tardivement par rapport à plein de gens, je ne sais pas exactement à quelle date l'épisode est sorti, mais avec Serge Le Mito, une vidéo de 8 minutes qui est tout à fait mais poilante, drôle et de laquelle je ne me suis vraiment pas remise encore aujourd'hui, que je trouve vraiment, vraiment marrante.
petite référence entre nous. Ok, bah super, merci beaucoup. Et on va s'écouter, c'est le choix de Pauline, qu'on s'écoute tout de suite. Pauline, qu'est-ce que c'est ce morceau?
C'est un morceau que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'écoute très peu de morceaux en boucle, parce que moi je suis team, je mets ma playlist en aléatoire. Mais ça, c'est un morceau que j'ai téléchargé et du coup, je l'écoute assez souvent quand je marche dans la rue ou quand je suis dans le tram. Et il me met extrêmement de bonne humeur. Et j'aime beaucoup les petits solos. Enfin, les petits, non, ils ne sont pas petits. J'aime beaucoup les solos de sax, de clavier, etc. Les écouter, les réécouter et me dire un jour, je ferai un solo comme ça.
Bon, bah, super.
Donc, on l'écoute tout de suite et on vous laissera en juger par vous-même.
C'est Saraba, si je dis bien le nom. Barlia.
Ouais. C'est ça. Et c'est tout de suite sur Prune.
Chouette. Il est 13h53, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre et c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Roma.
S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office.
Pas d'objection.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Coup de foudre pour une nouvelle chronique polar. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les énigmes et les mystères, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une des plus célèbres aventures de Sherlock Holmes et de son associé le docteur Watson. Il s'agit bien sûr de « Le chien des Baskerville » de Sir Arthur Conan Doyle. L'histoire commence avec les deux protagonistes qui sont en train de discuter dans l'appartement de Sherlock Holmes situé Baker Street à Londres, quand soudain, un certain docteur Mortimer fait son entrée et demande conseil au détective pour une affaire délicate. Il leur explique que quelques mois auparavant, Sir Charles Baskerville a été retrouvé mort sur le terrain de sa propriété dans la lande de Baskerville Hall. D'énormes empreintes de chiens ont été découvertes non loin de la victime et font remonter à la surface une vieille légende qui planait sur la famille. Celle d'Hugo Baskerville, ancêtre de la famille, retrouvé gisant sur le sol de la lande, un chien noir, géant, lui déchiquetant la gorge. Le docteur Mortimer vient consulter Sherlock Holmes car il s'inquiète pour l'héritier du manoir, le jeune Henry Baskerville. Après réflexion, le célèbre détective lui propose que ce soit le docteur Watson qui escorte les deux individus jusqu'à Baskerville Hall, pour les protéger si nécessaire, car lui-même est déjà trop occupé à Londres. C'est donc Watson, le narrateur de l'histoire, qui part à la rencontre de la lande lugubre et de ses mystères irrésolus. Une fois arrivé sur place, il enverra ses impressions à Holmes et lui écrira régulièrement des comptes rendus d'enquête pour essayer d'élucider l'affaire. Beaucoup de personnages font leur entrée dans l'intrigue, et leurs histoires sont entremêlées les unes aux autres comme une grosse pelote de laine, ce qui rend l'enquête très dynamique et difficile à résoudre. Voici nos différents personnages. Perkins, le valet. Mr. and Mrs. Barrymore, majordome et femme de ménage. Mr. Stapleton, le naturaliste passionné de papillons, et sa sœur Beryl. Mr. Frankland, le vieux fou qui aime traîner les gens en justice. Et sa fille Laura Lyons, jeune femme abandonnée par son mari. Et pour finir, un forçat inconnu évadé de la prison de Princetown. Je peux vous assurer que vous ne vous ennuierez pas en lisant Le chien des Baskerville. Sir Conan Doyle maîtrise l'art de raconter des histoires et on sent qu'il est proche de ses deux protagonistes. Il est très appréciable de suivre l'enquête au travers des yeux de Watson, qui cherche à dénicher le coupable tout seul en l'absence de Holmes. Ses lettres à l'intention de Holmes sont très détaillées et on ressent son envie d'être à la hauteur de ce dernier. Le personnage de Sherlock Holmes, de toute évidence, est particulièrement fascinant de par sa perspicacité extrême et son intelligence méticuleuse. Le docteur Watson, quant à lui, est beaucoup plus doux et instinctif. Tous deux forment un duo absolument génial et leur amitié teintée de compétition et d'admiration est parfaitement équilibrée. Je suis ravie d'avoir découvert ce livre, ainsi que d'autres contes relatant les aventures de Sherlock Holmes. Je comprends pourquoi ce livre est devenu un véritable classique. Il est agréable à lire, tout à fait passionnant grâce à la variété des personnages, à la diversité des soupçons et des hypothèses émises. Aussi, le suspense constant est permanent. On n'a pas envie de lâcher le livre des mains. Pour finir, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est la magie que j'ai ressentie quand j'ai lu les explications finales du détective, qui sont comme le final d'un feu d'artifice. C'était Le chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous, et je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle chronique polar.
Merci Romain, c'est vrai que c'est un très beau classique de la littérature polar, Le Chien des Baskerville. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Adèle Ancieur d'être venue nous rendre visite depuis ta contrée rennaise. Moi, je vous dis à très vite pour la 4e édition de Coup de Foudre. Vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube, Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre. Et à l'année prochaine.